Aujourd'hui, on est réunis autour du baptême de Maxime et j'ai ce grand honneur de vous apporter le message. J'ai aussi le grand honneur d'avoir accompagné Maxime pendant ces derniers mois et de l'accompagner à la suite. On ne s'arrête pas là. Et on va, après mon intervention, Maxime va nous expliquer pourquoi il veut passer par les eaux du baptême. Avant tout, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit moment pour comprendre en quoi c'est important de se faire baptiser. Et donc, c'est un baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême du feu, ni un baptême de l'air. Donc, on va parler d'eau aujourd'hui. Et j'ai pris un peu cette image et on va faire un petit parcours autour de la Bible de l'importance de l'eau. L'eau est importante pour la vie. Ça serait la ressource la plus importante sur la planète. On commence à mesurer la consommation d'eau dans notre quotidien, quand on fabrique des objets, quand on mange de la viande. L'eau, c'est la vie. Et dans notre univers, c'est quelque chose que l'on retrouve que sur notre planète. Il y a même des films qui en parlent. Peut-être qu'il y en a qui ont vu Dune. Alors, c'est dans un autre univers, mais... Voilà, même James Bond, il y a eu un film où il prenait de l'eau pour pouvoir contrôler cette ressource. Le corps humain est composé de 60% d'eau. Peut-être certains un peu plus. C'est une moyenne. Certaines cellules, 90%. Les animaux, les plantes, tous ont besoin d'eau. L'eau permet des réactions chimiques, c'est un solvant universel qui dissout et transporte tous les nutriments, les déchets, les minéraux, là où il faut. L'eau permet de réguler la température, alors que ce soit dans une voiture, dans un ordinateur ou dans notre corps. Je commence à avoir bien chaud. Non, c'est bon, j'ai pas besoin d'eau, vous inquiétez pas. Je vais essayer de ne pas être trop lent. Le cycle de l'eau. L'eau... dans les montagnes, vient nourrir les plantes, s'évapore, remonte, c'est le phénomène de la condensation. Et tout ça permet la vie sur Terre. Elle permet la croissance des plantes, toute la chaîne alimentaire, remplit les nappes phréatiques, fait circuler les éléments, la pluie qui permet de faire du bien. Bon, des fois c'est de l'eau propre, des fois ça salit un peu la voiture selon d'où vient le nuage. L'eau est présente partout où il y a de la vie. Les scientifiques, quand ils cherchent la vie ailleurs, la première chose qu'ils cherchent, c'est la présence d'eau. Sans eau liquide, la vie telle que nous la connaissons n'existe pas. Dès la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On trouve ça dans la Bible, Genèse, chapitre 1, verset 2. Dieu créa l'eau. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui était en dessus, et cela fut ainsi dans Genèse 1, verset 7. Pour nous, nous avons besoin d'eau. Et pourtant, que nous dit Jésus ? Dans Jean 6, 35, « Et Jésus répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et encore dans Jean 4, 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La vie éternelle, est-ce que c'est grâce à l'eau ? Non. La vie éternelle, c'est grâce à Jésus. L'eau, dans la Bible, est un symbole de purification, de salut, de nouvelle vie. Peut-être que vous avez la connaissance, sinon je vais vous expliquer rapidement. Vous avez entendu parler de Noé dans la Genèse, chapitre 6 à 9. Dieu utilise l'eau pour juger une humanité corrompue par le mal. L'eau recouvre la terre, effaçant la violence et la désobéissance. Mais à travers l'arche de Noé, Dieu sauve sa famille, Noé et sa famille, préservant la vie et préparant un nouveau départ. l'eau devient à la fois un instrument de jugement contre le péché et un moyen de purification dans un monde renouvelé. Dans Exode, Dieu décide de sauver son peuple, de le ramener dans son pays promis, en le faisant sortir d'Égypte. Et les Israélites, qui étaient esclavagisés, c'est pas sorti comme vous voulez. Hein. Non, les blagues, c'est après. Vous inquiétez pas, il y en a une ou deux. Ça n'était pas prévu. Donc, je reprends. Je vais lire ma phrase, ça sera plus simple. Pour permettre aux Israélites de fuir l'esclavage en Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge et Dieu opère un miracle. Ils traversent à sec, protégés par Dieu, tandis que les eaux se referment sur l'armée de Pharaon. L'eau devient ainsi un instrument de délivrance pour le peuple de Dieu et de jugement contre leurs oppresseurs. Ce passage symbolise la libération par la foi et la puissance divine qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. J'aimerais m'arrêter sur un premier récit, que l'on trouve dans Marc 5, 1 à 20. On le trouve aussi dans Matthieu 8 et Luc 8. Si vous voulez le lire, vous pourrez. Je vais vous faire un petit résumé de ce passage. Jésus rencontre un homme possédé par une légion de démons. Jésus va le délivrer, il va les chasser. Et ces démons vont lui demander d'aller se réfugier dans un troupeau de porcs qui se précipite dans le lac et se noie. Que dire de ce passage où on parle de l'eau aujourd'hui ? L'eau peut être aussi un lieu de mort. Alors que l'eau est source de vie, elle peut aussi symboliser la mort, le chaos et la perdition. Dans notre région, on a souvent eu des intempéries qui ont causé beaucoup de problèmes. Le lac ou la mer était souvent vu comme le symbole du mal, de l'abîme incontrôlable. Pensons à Jonas qui est dans ce bateau et qui est jeté par-dessus la mer pour sauver les personnes qui étaient avec lui dans le bateau. On voit aussi Paul qui fait naufrage avec son navire et les différentes tempêtes que les disciples et Jésus traversent. Dans ce passage, les démons fuient dans l'eau et s'y perdent. C'est comme si l'eau devenait leur lieu de jugement, leur tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. L'eau est le lieu de séparation entre le bien et le mal. Jésus délivre un homme et rétablit sa vie pendant que les démons sont engloutis par l'eau. C'est une image très forte. Le mal est chassé et englouti tandis que l'homme retrouve sa dignité. Cela fait écho au baptême. Par analogie, on peut voir un baptême. Ce sont les démons qui sont submergés et disparaissent alors que l'homme est libéré, purifié, réintégré dans la vie. Dans le baptême biblique, nous aussi, nous entrons dans l'eau pour mourir à l'ancienne nature. Et en ressortant pour vivre en nouveauté de vie. Dans Romains 6, versets 3 et 4, « Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés par Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Cela nous donne un contraste saisissant avec l'image du salut. L'eau qui est un lieu de jugement et qui, pour le croyant, l'eau devient un symbole de salut et de renaissance. Dans la Bible, l'eau peut être un lieu de mort ou de vie, de jugement ou de salut. Tout dépend de notre position par rapport à Jésus. Pour celui qui croit, l'eau du baptême n'est pas une fin, mais un commencement. Une vie nouvelle avec Christ, libérée de l'ancienne domination. Jésus s'est fait baptiser. Il n'avait pas besoin de le faire. Il était envoyé pour payer notre dette. Il était saint, il était parfait, mais il a décidé de le faire. Imaginez s'il arrive en marchant sur l'eau, comment aurait fait Jean ? Ben, Jésus, il a décidé tout simplement de se soumettre. Il a fait pour montrer l'importance de ce symbole. Il s'est fait baptiser publiquement. Croire d'abord en Jésus et se faire baptiser pour obéir. Voilà ce que Maxime va faire aujourd'hui. Ça permet de symboliser la conversion. Ce n'est pas aujourd'hui que Maxime s'est converti. Il nous l'expliquera après. Mais c'est un symbole. Le baptême, par immersion, c'est une proclamation publique de cette nouvelle naissance et du travail à venir. Ce n'est pas une finalité, comme Maxime, ceux qui sont passés par les eaux du baptême, ben on continue de progresser. On avance, on court vers le but. Nous le faisons par obéissance. Marc 16 dit « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé ». On le fait par obéissance. Dans 1 Pierre 3, verset 21, « Cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Christ ». Je vais terminer par une dernière petite histoire. Dans 1 Roi 17, versets 7 à 16, une histoire avec Élie, qui était un prophète de l'Ancien Testament. Je vous pose le contexte. Le peuple d'Israël a péché et Dieu pose un jugement. Une sécheresse frappe le pays. Le torrent de Kérit, où Élie buvait et recevait de la nourriture des corbeaux, se tarit. Dieu envoie Élie à Sarepta. Et vous, peut-être que si vous avez l'habitude, vous connaissez ce passage avec la veuve de Sarepta. Sarepta, c'est un village de païens. Et Élie va rencontrer une veuve au bord de l'extrême pauvreté. Ils sont envoyés là, ils se rencontrent pour leur salut. L'eau qui se tarit est un signal d'alarme. Elle nous pousse à sortir de notre confort et à dépendre de Dieu. Sarepta signifie creuser, un lieu d'épreuve, de feu de purification. Comme l'or est purifié dans le creuset, nos cœurs sont travaillés et le seront encore. Dieu y révèle sa puissance de provision. Cette veuve qui avait un peu de farine, un peu d'huile, vont être multipliées. Elles ne manqueront pas tant que durera la sécheresse. C'est ce qui se passe pour Élie et cette veuve. C'est dans le lieu d'absence, le manque d'eau, le manque de pain, le manque d'espoir, que Dieu manifeste sa fidélité. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Quand nos sources naturelles se tarissent, Dieu nous appelle à une foi renouvelée, une dépendance plus profonde. Le creuset peut être un moment douloureux, mais il purifie et il nous prépare à une grande révélation de Dieu. L'eau du quotidien n'est rien comparée à l'eau vive que Dieu nous donne. Une eau spirituelle qui ne tarit jamais. On l'a vu tout à l'heure dans Jean 4, 14. Pour conclure, comme l'eau, notre vie passe par un cycle. Nous sommes appelés à descendre, à nous laisser immerger, purifier, dépouiller. Alors, par l'Esprit de Dieu, nous sommes élevés, comme la vapeur qui monte vers le ciel, vers le Père. Et du ciel, le Père nous envoie, comme la pluie transformée, prêt à irriguer, à nourrir, à porter vie autour de nous. Voilà la promesse que Dieu nous fait. C'est le cycle de la grâce. Mourir à soi, monter vers Dieu et revenir vers les autres, remplis de lui. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous partager. Je vais laisser la place à Maxime, qui va nous partager son témoignage. Et après, nous pourrons procéder au baptême.